Voilà, j'aimerais vous parler d'un sujet qui, dans la vie de certains croyants, sont de véritables forteresses. Des forteresses qui leur semblent insurmontables. Et qui, en fait, ces forteresses peuvent détruire petit à petit notre relation avec les autres, notre relation avec Dieu et notre relation avec nous-mêmes. Et le thème, donc, c'est la forteresse ou les forteresses de l'infériorité dans notre vie que nous pouvons rencontrer. Un jour, il y a un homme qui désirait se faire tatouer, et puisqu'on parle de tatouage, je tiens à rappeler ici que la parole nous enseigne de ne pas nous faire tatouer. Un chrétien ne se fait pas tatouer. Si vous êtes tatoué, et que c'était avant votre conversion, eh bien, c'est fait. Mais après sa conversion, on ne se fait pas tatouer. Donc, l'histoire dit ici qu'un touriste, lui, un jeune homme, donc, désirait se faire tatouer, et pendant qu'il parcourait les rues de Hong Kong, il va tomber sur un salon de tatouage, et le tatoueur avait exposé plusieurs modèles en vitrine, parmi lesquels des sirènes, des ancres, des drapeaux et bien d'autres choses. Et c'est alors que notre homme aperçut un motif qui le fit regarder à deux fois et a fait cette lecture suivante. C'était un texte en trois mots. Né pour perdre. Né pour perdre. Allez rentrer dans la boutique et puis demander à l'artiste si vraiment des gens qui se font tatouer cette phrase terrible, être né pour perdre. Et le tatoueur va hocher la tête d'un air affirmatif, et notre homme croit avait du mal à le concevoir, et l'artiste chinois va se tamponner la tempe, et au bout de l'index, il va dire d'un anglais laborieux que je ne ferai pas non plus, je vais vous le traduire. Avant tatouage sur le corps, tatouage dans la tête. Avant de se tatouer sur le corps, né pour perdre, la personne est déjà tatouée dans sa tête, né pour perdre. Combien de croyants ont dans leur tête ce genre de tatouage ou cette inscription ? Qui retentit jour après jour, instant après instant, ou peut-être parfois pour certains d'entre eux, à des occasions lors de sollicitations, lors d'encouragement, à dire tiens, ça serait bien frère ou sœur que tu puisses rentrer dans tel service. Et puis la personne, se sentant pas à la hauteur, alors que cette personne peut avoir des capacités. Et. J'aimerais peut-être ce matin parler à certaines personnes qui ont reçu dans leur cœur un service spécial, je dirais, pour servir le Seigneur, et toujours se trouver un tas d'excuses, non pas parce que ce sont des mensonges qu'ils se créent eux-mêmes, mais parce qu'ils le vivent réellement, de se sentir rabaissés, parce qu'en fait, ils n'ont jamais été, ils n'ont jamais fait la paix avec eux, et ils ont comme des forteresses dans leur vie qui les empêchent d'avancer. Et parfois, passer à côté de certains services que Dieu voudrait pour eux et que ces chrétiens passent à côté. L'opinion que nous avons sur nous-mêmes est capitale. Elle détermine la manière dont nous fonctionnons dans le royaume de Dieu, dans notre famille, dans notre vie de chaque jour. Si nous avons une mauvaise opinion de nous, si nous vivons, si nous sommes dans l'esprit d'infériorité, toujours en train de nous mépriser, de nous rabaisser, ce n'est pas un signe d'humilité. Il y a une chose que nous devons savoir, c'est que vous ne pouvez pas échapper à votre propre compagnie. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, vous serez toujours avec vous-même. Toujours. Vous ne pourrez pas vous décharger de vous-même. Vous serez toujours accompagné de vous-même. C'est pour ça que c'est important d'être bien dans sa tête, d'être en accord avec soi-même. Les gens qui n'arrivent pas à se supporter passent généralement sont souvent des gens qui sont instables, d'un emploi à un autre, de relations avec d'autres relations, sont toujours prêts à faire des choses parce que ça va pas, et ça va pas, alors je vais essayer ça. Et puis c'est souvent, parfois, la faute des autres. Parce qu'en fait, les gens, ils essaient d'échapper à eux-mêmes. L'infériorité détrône Jésus dans notre vie. C'est le risque. Lorsque vous ne vous aimez pas et que vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes et tel que Dieu vous a créé, c'est la sagesse même de Dieu que vous contestez. Dans le psaume 139, verset 14, David va dire « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » David n'était pas en train de faire, un excès d'éloge pour sa personne. David avait compris que sans Dieu, même s'il était roi, eh bien déjà que d'une part c'était Dieu qui l'avait fait roi, et que Dieu avait des plans merveilleux pour lui, et que malgré ses erreurs, parce qu'il était passé par la repentance d'un cœur sincère et vrai, Dieu avait renouvelé, avait régénéré cet homme, et que cet homme, en fait, il avait vu autour de lui. Et je vous invite à regarder autour de vous, à regarder ce que vous auriez pu être si vous n'aviez pas reçu Christ dans votre vie. Et de dire, mais en fait, Seigneur, ce que tu as fait dans ma vie, c'est merveilleux. Parce que où est-ce que je serais aujourd'hui si tu n'étais pas venu dans ma vie? Vous savez, parfois, les uns et les autres, nous rendons témoignage. On peut rendre témoignage, mais on rend témoignage de ce qu'on veut bien dire. Il y a tellement de choses qu'on n'ose pas dire, parce qu'en fait, ça fait partie de notre existence. Et que je vous invite à continuer comme ça, à ne surtout pas dire. À garder ça pour vous, parce que c'est entre vous et Dieu. Mais de considérer et de voir que ce que Dieu a fait dans notre vie, c'est quelque chose de merveilleux, de beau. Et que ce que Dieu a fait dans notre vie fait de nous de nouvelles créatures. Et que nous avons un nouveau départ, que nous avons eu un nouveau départ dans notre vie. Et on peut se faire l'écho de David. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Vous devez voir en vous une merveille, une œuvre du Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est ainsi que lui nous voit. Vous ne serez jamais véritablement heureux si vous n'avez pas une vision juste de vous-même. Se rabaisser constamment, c'est une vision fausse. Et d'ailleurs, l'inverse est aussi vrai. Il y a des gens qui n'entendent jamais rien parce qu'ils ont une image d'eux supérieure à la majorité. On ne peut rien leur dire. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que lorsqu'on ose leur dire quelque chose, alors ils se vexent et s'offusquent parce qu'on a dit quelque chose. Et comme ils ne se remettent pas en question, voilà. Et c'est une image fausse de leur personne. Tant que vous ne comprenez pas comment Dieu vous voit, le regard que vous portez sur vous-même sera toujours faussé. Et c'est important de voir que le regard de Dieu est un regard plein d'amour, et qu'il voit Christ à travers nous. Dans Nombre 13, versets 32-33, il est écrit « Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. C'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. » Qui parle ainsi? Ce sont des gens qui sont envoyés sur la terre promise, la terre de Canaan. Ce sont les 12 espions, ou plutôt 10 sur 12 qui disent ça. Et ces gens qui sont arrivés, nous savons, lorsqu'ils sont arrivés sur la terre promise, eh bien, ils ont constaté, en effet, qu'il y avait de la nourriture, c'était le pays des délices. Ils ont ramené des preuves. Non seulement ils ont goûté, ils ont vu, ils ont goûté, ils ont touché. Ils ramènent des preuves. En disant, oui, c'est vrai, tout ce que tu nous as dit, c'est vrai. Ce que Dieu nous a dit, c'est vrai. Regardez, on a les preuves. Regardez. Mais nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et nous étions, c'est comme ça qu'on se percevait. Et vous voyez, parce qu'ils ont vu ces choses, parce qu'ils ont imaginé ces choses, qu'ils voyaient ces gens qui étaient immenses à leurs yeux, ils se considéraient comme des moins que rien. Et c'est ce qui les a empêchés de poursuivre dans la terre promise. Ils n'ont pas reconsidéré en disant, mais oui, peut-être que nous sommes petits à leurs yeux. Et ils sont grands à nos yeux, c'est vrai. Mais puisque Dieu nous a donné sa parole, alors on avance. On ne sait pas comment ça va se passer, mais on fait confiance à Dieu. Mais parce qu'ils sont restés sur leur petitesse, ils se sont dit, bah, c'est pas la peine les gars qu'on y aille. Hein. Oulala, en fait, ils ont pris Dieu comme étant menteur. Dieu qui ne sera pas fidèle à ce qu'il a dit. Et c'est ce que le diable veut pour notre vie. Lorsque Dieu nous appelle, le diable fera en sorte de nous déstabiliser, et soyez-en sûrs, vous n'y échapperez pas, pour nous couper de notre relation avec Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 22, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Quel regard vous portez sur vous-même ? Un jour, on avait fait un, j'allais dire un jeu, c'est pas un jeu, à la réunion de jeunesse, ici. C'est moi ou quelqu'un d'autre, je ne sais plus, enfin, peu importe. J'avais mis un miroir, ici, dessus, enfin, peu importe l'endroit. Et puis, parmi les jeunes, je lui ai dit, « Tiens, attelle, viens !» Puis j'avais mis une chaise devant le miroir. Je les attendais au virage. Alors, cette personne était comme ça, devant le miroir, puis les autres, ils étaient derrière. Puis je posais la question suivante, en quelques mots, je disais à cette personne, je dis, « Qui est cette personne en face de toi ?»« Quelle est cette personne ?» Une drôle de question, hein. Mais je vous pose la question, « Qui voyez-vous le matin quand vous regardez dans le miroir ?» Bah, Stéphane Binger, forcément, je ne veux pas voir Anne, c'est moi. Vous avez compris. Mais qui je vois au fond de moi-même ? Qui je suis en réalité ? Comment je me perçois ? Comment les gens me perçoivent ? Ça, c'est une chose. Mais moi ? Et en fait, ça va déterminer ma vie. Si je me prends en disant, ouais, quand même. Il y en a un, il m'a cassé, je crois que c'est à Cuba, il m'a dit... Ah, il se rappelait de moi, il me dit, il y avait plus de cheveux noirs. Je viens faire tout ça, 10 heures de vol pour me dire ça, que j'ai des cheveux blancs. C'est bon, je les vois tous les jours, les cheveux blancs. Mais qui je vois ? Est-ce que je me vois comme un vermisseau, écrasé, prêt à être écrasé ? Si mon regard sur moi-même est un regard équilibré, en disant, ben voilà, oui, j'ai des faiblesses, j'ai des manquements, mais je compte sur Dieu pour avancer, pour progresser. Et Dieu me soutient, il m'aide. On a besoin d'être aidé. Hier, on était voir, vous l'avez eu sur WhatsApp, un vu Mireille qui est en maison de convalescence. Et elle nous montrait que ça y est, elle peut se mettre debout, mais elle ne marche pas comme moi. Hein. Elle cède. Parce qu'elle a eu le fémur cassé, donc, mais comme elle est âgée, c'est si dur. À... Donc, elle cède, elle a besoin d'aide. Et elle marche en s'appuyant. Moi, je marche dans le Seigneur parce que je m'appuie sur le Seigneur. Si je m'appuie sur moi-même, il y a longtemps que je ne serai plus ici. De manière, vous ne m'auriez jamais vu ici. Et si on est honnête avec soi-même, je pense que vous êtes pareil. À moins que... Moi, je suis ici, tiens, je suis la colonne. Et les frères et sœurs sont à côté. Heureusement qu'on est là, parce que s'il n'y avait pas la colonne, pff, La loi dit « Faites sortir le péché de votre vie et Dieu pourra y entrer. » Ça, c'est la loi qui dit ça. La grâce dit « Laissez Dieu entrer dans votre vie. Il s'occupera de votre péché. » Ce n'est pas la même chose. Laissez Dieu entrer. Il en est de même pour les sentiments d'infériorité qui détruisent, qui nous détruisent, qui empêchent Dieu d'agir dans notre vie. Et puis, il y a cette fausse humilité. Les gens se drapent souvent dans une fausse humilité et s'estiment spirituels en disant « Je suis qu'un misérable, un vermisseau, tout juste, bon à ramper, indigne de vivre. » Il y a des gens qui parlent comme ça. Parce que ça fait « Seigneur, je ne suis pas digne de te prier. » Mais en fait, ils sont faux. Ce n'est pas de l'humilité, ça. C'est de la comédie. C'est de l'hypocrisie. Parce que si on ne le pense pas, si on dit quand même « Oh, je dis ça devant les frères et sœurs parce que ça fait bien, mais en fait, je suis là, je suis sur la place. » C'est la fausse humilité. Et n'attendez rien de Dieu parce qu'en fait, vous empêchez Dieu de faire. Parce que vous fermez la porte. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de Dieu puisqu'on est... Moi, je suis là. J'avais connu un pasteur, c'est un évangéliste, il n'est plus de ce monde. Mais alors, quand il rendait témoignage, attention, c'était quelqu'un. C'est quelqu'un. Mais quelqu'un pendant le bon sens du terme. Il avait des façons de faire très moi. C'est moi l'évangéliste. Il avait même dit à son voisin, avec deux doigts, je te terrasse. Vous voyez, c'était quelqu'un qui avait des capacités. Parce que Dieu lui avait donné des capacités. Mais que je suis presque sûr que si cette personne n'avait pas un certain regard sur sa personne, si cette personne disait « Seigneur, continue à œuvrer dans mon cœur, dans ma vie », elle aurait certainement fait plus que ce qu'il n'a fait. Et c'est valable pour ceux qui ont un complexe d'infériorité. « Seigneur, tu vois, oui, je ne sais pas faire. » Moi, il y a des choses que je ne sais pas faire. Heureusement, d'ailleurs, parce que si on savait tout faire... Il y a des choses que je ne sais pas faire. J'ai remarqué, le Seigneur a toujours mis des gens sur ma route pour pouvoir les faire pour moi. Pas parce que je me disais « Aujourd'hui, peut-être, ou alors demain. » Non. Pas parce que j'avais un poil dans la main et que je m'en servais de canne. Vous connaissez cette expression, un poil dans la main? Il y en a, c'est comme ça. Mais parce que, voilà, il y a des choses où je ne suis pas du tout compétent. Puis il y a des choses dans lesquelles je sais faire, et puis ça va aider les autres. En fait, c'est ça l'Église. Hein. Et la Bible nous dit, regardez votre frère comme supérieur à vous. Mais comme il est la même Bible que moi, bah lui, il me regarde supérieur à lui, et moi, je le vois supérieur à moi. Alors du coup, tout le monde est équilibré. Quand on se drape d'une fausse humilité, cette manière de penser est ni sainte ni spirituelle, et encore moins humble. La véritable humilité ne consiste pas à penser moins de soi, mais à penser moins à soi. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et puis, il y a quelque chose qui peut entretenir notre malaise quand on se sent inférieur, c'est les comparaisons. John qui joue du saxo, moi si je débute, c'est pas vrai, je débute pas, mais si je me compare à John, ça fait combien d'années, John, que tu joues? Hein? 10 ans. Ben, si j'arrive et que j'ai fait 3 leçons, Alors, je peux avoir la motivation. Là. J'ai acheté le bon saxon, saxo. Et puis j'ai envie, j'ai la motivation, j'ai l'instrument, et puis j'ai pris le meilleur prof de Martigues. Oh. Mais si je me compare à John, bah, lui il va... Et puis moi je vais... Mais si je me compare à lui, bah forcément je vais être... Ne faites pas de comparaison. Parce que le jeu des comparaisons peut devenir parfois stupide. Et c'est un piège. De nombreuses personnes tombent. On peut comparer nos statuts sociaux. On peut comparer notre physique. C'est tellement injuste. Il y en a, ils sont obligés de faire des efforts pour mincir. Et d'autres, ils vont manger comme quatre. Il n'est pas là, mais moi, mon fils, il engloutit. Mais je dis, mais il est comme ça, il engloutit. Où est-ce que tu mets tout ça? Même moi, à son âge, je ne mangeais pas comme lui, il mange 2-3 steaks. Mais tu vas nous ruiner. Je parle d'Elian, parce qu'il y a Ruben, je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est lui. Vous ne le répéterez pas, hein. Mais parfois, on fait des comparaisons sur notre situation financière. Oh, bien sûr, on ne va pas étaler, on n'arrive pas avec son bulletin de paie, on dit « Eh, j'ai eu la prime, hein, ce mois-là. Wouh, c'est la fête à la maison. » On n'arrive pas non plus en faisant des comparaisons de carrière. Il y a des carriéristes. Et puis, il y a des niveaux de réussite. Puis, parfois, on peut faire des comparaisons avec nos enfants. Des enfants qui réussissent brillamment les études. Puis d'autres, ils seront tout à fait... auront une vie, sans... Mais c'est un piège. Parce que ça nourrit votre infériorité. Et en fait, vous vous sentirez toujours petit. Est-ce que ce n'est pas un peu la pensée de Lot ? Vous vous rappelez de Lot ? Lot qui s'est loupé. Il s'est loupé. Lot, lui, qui avait de l'ambition, elle n'était pas au fond de lui-même, c'était pas malsain. Ce garçon, Lot, qui était élevé avec Abraham, son tonton, le tonton de la famille, l'oncle. Lot avait été au bénéfice de la grâce de Dieu à travers Abraham. Dieu avait choisi Abraham pour être le père de la foi. Et puis l'autre, quand il a vu son oncle vivre comme il vivait, elle était imprégnée de ces choses. Mais vous remarquerez, ce n'est pas parce qu'on est imprégné qu'on est habitué qu'on fait le bon choix. L'oncle avait fait le choix de ne pas de dispute. Je veux pas d'histoire avec ma famille, surtout pas. Que le Seigneur nous garde de ça. Mais lui, l'autre, lui, il était jeune, il avait ambitieux, il voulait faire des choses. Il a vu Sodome et Gomorrhe, il s'est dit « Waouh, ça va rentrer dans les caisses !» Peut-être qu'il avait déjà la calculette solaire. Bing ! Il a vu le ticket qui est sorti. Waouh ! Mais la Bible nous dit aussi qu'il se tourmentait quand il a mis le doigt dans l'engrenage, qu'il a vu la mentalité de ces gens-là. Il entendait des choses, il voyait. Il était imprégné de ces choses. En fait, il savait qu'il était dans la compromission, mais qui pouvait le sortir de là ? Abraham avait prié pour lui. Intercéder pour lui. Et les anges, quand ils sont venus, ont dit, va sur cette montagne. Il y a la ville, je crois que c'est de Tsoar. N'est-elle pas petite ? Pourquoi petite ? Des fois, il y a des gens qui me disent, tu veux un petit café ? Je dis, pourquoi un petit café ? Un grand café. Alors maintenant, c'est nouveau. Ça fait 2-3 jours, je dis, que le Seigneur vous bénisse un petit peu. Alors les gens, ils disent, pourquoi un petit peu ? Ce matin, j'aurais fait le coup. Que le Seigneur vous bénisse un petit peu. C'est bon ça. Il faut les asticoter un petit peu pour qu'ils réagissent. Moi, j'ai pas envie d'être un petit peu béni. J'ai pas envie d'aller dans la petite ville si le Seigneur nous appelle d'aller dans les grandes villes. Mais pourquoi ? Parce que notre esprit d'infériorité, notre complexe d'infériorité, Bah, Seigneur, je voudrais une petite bénédiction, une petite grâce. Oh, le baptême du Saint-Esprit, n'en parlons pas, c'est pour les gens qui... Moi, je suis tellement... Et puis, Seigneur, je te donne ma petite offrande. J'ai un petit pasteur, j'ai une petite église, j'ai... Tout est petit dans ma vie, surtout tout est petit dans ma tête. Et puis, lorsque le patron vient vous voir en disant « Tiens, il y a une promotion pour toi », est-ce que « Oh, je peux pas. Pourquoi je peux pas ?»« Parce que je suis tout petit. » Voyez, le complexe d'infériorité. Dieu ne veut pas que nous ayons un complexe d'infériorité, mais que nous soyons équilibrés. Équilibrés. Et Dieu ne veut pas plus, d'ailleurs, que nous ayons un complexe d'infériorité, de supériorité. De Corinthiens 10-12 nous dit « Certains pensent beaucoup de bien d'eux-mêmes. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à eux. Ils se prennent eux-mêmes comme mesure pour se mesurer et se comparer aux autres. Ils sont stupides. » C'est marqué « sans intelligence, c'est gentil. » Mais ils sont stupides. Il faut absolument éradiquer ces sentiments qui enferment, qui nous enferment dans une boîte. Comment sortir de cette forteresse ? De cette prison, si vous vous identifiez à vos succès ou à vos échecs, ils donneront de fausses images de vous. Vous avez eu des échecs ? Je vais vous dire, c'est ce qui construit notre vie, les échecs. Les réussites aussi. Mais ceux qui passent par... Vous savez, quand on compare, par exemple, Abraham, qu'est-ce qu'il avait comme succès, Abraham ? C'était un gars, il était stérile. Moïse, qu'est-ce qu'il avait comme succès, pour apporter à Dieu ? C'était un bègue. Isaac, il ne voyait pas clair. Pierre, fougueux, il a fait des bêtises. Hein. Vous avez remarqué que beaucoup d'hommes de la Bible... En fait, ce sont des hommes qui sont en vie avec leur handicap. Et Dieu a fait quelque chose de merveilleux parce qu'ils n'ont pas entretenu. Et d'ailleurs, quand Moïse va dire, écoute, on envoie un autre parce que alors moi, je... C'est comme si Dieu disait, maintenant, ça suffit. C'est toi que j'ai choisi, ton frère, il arrive, il sera ton porte-parole. Vous avez vu ça ? À un moment donné, Dieu lui dit comme ça, c'est terminé maintenant. Eh bien, dites-le à votre personne. Je ne mérite rien, c'est tout par la grâce de Dieu. Mais je ne veux plus me voir comme étant un vermisseau prêt à être écrasé. Je ne veux pas non plus me voir comme étant le papillon qui dépasse tout le monde. Mais je suis dans l'équilibre. Seigneur, règne en moi. Reprends-moi. Je termine en vous racontant une petite anecdote. C'est un touriste américain qui, un jour, à Paris, a acheté un collier d'ambre. À bon marché, dans une boutique de souvenirs. Mais il a été choqué de devoir payer des droits de douane exorbitants à son arrivée à New York. Il était étonné. Intrigué, il décida de faire expertiser ce collier. Après son examen, après avoir examiné l'objet à la loupe, l'expert affirma, sans l'ombre d'une hésitation, je vous donne 25 000 dollars pour votre collier. Abasourdi, l'homme demanda, qu'avez-vous trouvé de si précieux à ce collier ? Un collier d'ambre. C'est pas... Regardez à la loupe. Va lui dire l'espère. L'homme s'exécuta et découvra cette inscription de Napoléon Bonaparte à Joséphine. Ce qui faisait la valeur, ce n'était pas le collier, mais le nom que portait ce collier, la signature. Je ne suis plus. Vous qui êtes convertis, vous n'êtes des vermisseaux, des moins que rien, Moi, je suis fils du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Mais vous aussi, hein, qui êtes convertis, qui avez accepté Jésus dans votre vie et qui êtes passé par les eaux du baptême. C'est la signature. Alors, Stéphane Minger, bah, il est ce qu'il est. Hein. L'autre coup, il s'est coincé le doigt entre une bûche et puis, puis la fendeuse. Il a eu mal. L'autre jour à Cuba, ah, là je suis, ça y est, c'est parti. Ah, puis ça a été. Il y a des faiblesses, il y a des manquements. Il se loupe. Mais celui qui est en lui, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Doit me faire comprendre que oui, bah, j'ai des progrès à faire. Mais je ne suis plus le vermisseau que j'ai été jadis. Avant, nous appartenions au diable, sans avoir fait le choix de lui appartenir. Mais avant, on appartenait au diable. Il faisait de nous des marionnettes, à sa guise. Mais depuis bien des années, j'ai accepté Jésus dans mon cœur comme étant le roi des rois, le seigneur des seigneurs de ma vie. Alors moi, j'ai trois enfants. Nous avons trois enfants. Mais les trois enfants, même papa, même maman, mais ils sont tous les trois différents. Même éducation, hein. La même, hein. Le steak haché chez le même fournisseur. Et pour autant, ils sont différents. Alors moi, je suis différent de vous, vous êtes différent de moi, et les uns et les autres, nous sommes tous différents. Même les jumeaux sont différents. Même si des fois, nous, on se perd, ils sont différents. Mais nous appartenons tous au roi des rois, au seigneur des seigneurs. Et puis imaginez un seul instant, vous avez votre enfant qui est là. Vous avez, tiens, comme nous, trois enfants. Et sur un de vos enfants se dit, je suis nul. Mais pas pour faire genre, hein, parce qu'il le vit vraiment. Je suis nul, je ne suis pas intéressant. Mon frère, ma sœur, ils sont... Moi, je n'ai pas le niveau que... Mais je vous assure, moi, en tant que papa, mais ça me ferait vraiment du mal. Mais on t'aime, pourquoi tu dis ça? Oui, mais tu m'aimes, mais je suis nul. Comprenez? En fait, on attriste le Saint-Esprit quand on pense comme ça. Et comme on devient insupportable quand on dit « Eh ben, des dents dans la fratrie, heureusement que je suis là. Moi, je relève le niveau. Moi, j'ai des études, j'ai ceci, je suis cela. » Et même si c'est vrai... Moi, je suis plus intelligent que mon frère et ma soeur. Même si c'est vrai, j'écrase tous les autres. Et j'attriste le Saint-Esprit aussi. Donc, dans l'équilibre. Vous savez ce qui est le plus dur dans la vie? C'est de maintenir l'équilibre. Pour les plus anciens, les jeunes, ils connaissent peut-être pas ça. Parce que... Il y a la balance. Il y a les chiffres qui... La balance. Avec l'aiguille au milieu. Aïe, aïe, aïe. 20 grammes près. Il fallait que les deux plateaux ils soient équilibrés. Aïe, 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 il y a trop de ce côté-là. L'équilibre, c'est une chose difficile. Mais comme ça m'est difficile pour moi, et comme nous sommes tous de la même pâte, ça doit l'être certainement pour vous. Alors Seigneur, je t'invite à faire le poids dans ma vie, et c'est toi qui me donnes l'équilibre. Que le Seigneur vous bénisse. Cet après-midi, 16h, il y a la réunion d'évangélisation. On termine par la prière. Puis peut-être qu'en fait, parmi nous, il y a des gens qui se sentent déséquilibrés, qui se sont retrouvés là-dedans. Ils pensent qu'ils sont que le collier d'ambre, sans valeur. Mais vous avez compris que ce collier d'ambre est signé. Tu m'appartiens. Tu es mon enfant. Et peut-être que vous n'aviez pas compris et que jusqu'à ce jour, vous êtes senti le vermisseau, le dernier, le petit dernier. Et qu'on vous a habitué à penser que, quoi que vous fassiez, même les erreurs, en fait, c'est normal, c'est votre ADN. Vous êtes l'enfant de l'erreur. Comme disait une mère à son enfant, tu es venu trop tôt, comme si le petit y était pour quelque chose. Et on vous inculquait ça. sauf que vous avez compris que vous aviez besoin de Dieu et que Dieu veut mettre l'équilibre dans votre vie. Alors je vous invite à fermer vos yeux. Et peut-être que quelqu'un s'y est retrouvé, s'est reconnu là-dedans. Et je vous invite à lever votre main. Et de dire, Seigneur, ben moi j'ai besoin. J'ai besoin d'avoir cet équilibre. J'ai besoin de ne plus vivre dans l'idée que je suis qu'un vermisseau. Y a-t-il encore d'autres personnes qui ont besoin ? Alors je vous invite à vraiment lever votre main. Alors on va prier le Seigneur. J'ai demandé à Yves et Londo de prier pour ces mains qui se sont levées, s'il te plaît.